La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 225e numéro de la mêlée de l'info. Voici celles qui ont accepté d'y participer et de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Et je salue le retour dans cette émission d'Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Bienvenue aussi à toutes les deux, ravies de partager cette émission avec vous pour revenir d'abord sur une affaire qui, elle, n'a rien de réjouissant. Depuis plusieurs mois, et particulièrement ces dernières semaines, la ville de Paris est confrontée à un scandale lié à des violences sexuelles dans ce qu'on appelle le périscolaire. 78 agents ont été mis en cause et suspendus depuis le début de l'année. Il s'ajoute à 30 autres qu'il avait déjà été en 2025. Un collectif de 751 parents d'élèves des 7e et 40e et 15e arrondissements a dénoncé des actes graves de violence et de manquement à la sécurité des enfants. Dans une lettre adressée à Emmanuel Grégoire, le maire de Paris fraîchement élu, il lui réclame un audit indépendant, complet et transparent, confié à un organisme externe. Emmanuel Grégoire a réagi et déclaré qu'il faisait de la lutte contre les violences dans le périscolaire la priorité absolue de son début de mandat, et ce, en toute transparence, a-t-il cru bon de préciser. Comment vous-même vous réagissez à ce que l'on découvre quasi chaque jour dans cette affaire, qui prend la tournure d'un scandale de grande ampleur et dont les premiers éléments ont pourtant été révélés il y a au moins un an, sans que ça suscite jusqu'alors beaucoup de réactions, que ce soit dans les médias et à la mairie de Paris. Marie-Christine Monnoyer.
Bonjour. Bonjour à tous. C'est une question épouvantablement difficile. C'est une question extrêmement douloureuse parce qu'elle touche des tout-petits qui vont peut-être rester marqués de très longues années, voire toute leur vie. Alors que ils n'ont pas même pas pu eux-mêmes expliquer ce qui leur arrivait. C'est donc un sujet, c'est une question douloureuse pour les petits, c'est une question très douloureuse pour les parents qui se retrouvent pratiquement confrontés à « Est-ce que j'aurais dû laisser mon enfant à l'école après les heures scolaires ?» puisqu'il s'agit du périscolaire qui n'est pas dans laquelle l'éducation nationale n'est pas véritablement en responsabilité. Et donc, c'est une douleur très grande pour les parents par rapport à leurs enfants, et c'est une douleur très grande des parents par rapport à eux-mêmes. Alors, bien entendu, c'est une douleur compliquée pour le maire de Paris, mais ce que nous allons peut-être aborder aujourd'hui, ce sont deux thèmes qui sont liés. Comment peut-on traiter cette douleur de tous ces enfants qui ont été touchés, cette douleur des parents, et au-delà de la question de la douleur, comment est-ce que des analystes qui sont extérieurs peuvent réfléchir, proposer des solutions, non pas uniquement pour tenter de résoudre le problème immédiat, mais pour aller beaucoup plus loin. Le périscolaire, c'est fondamental dans notre organisation. C'est 2 millions d'enfants qui sont tous les jours scolaires, qui sont encadrés dans le cadre du périscolaire. 2 millions d'enfants. Et donc, ce n'est pas un petit problème. Ce sont de multiples écoles, ce sont de multiples municipalités qui sont touchées par cela. Alors, personnellement, je suis très très contente que le nouveau maire de Paris ait décidé de faire toute la lumière, etc. Et au fond, que peut-être on se lance dans une réflexion qui permettrait qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais il va vraiment falloir réfléchir beaucoup. Parce que vous vous souvenez aussi que nous avons abordé, enfin qu'au niveau national, il y a eu toute une réflexion sur ce qu'on a appelé les temps de l'enfant, la commission des temps de l'enfant. Et cette commission n'avait pas vraiment pointé ce type de question. Sauf que elle l'a abordé par ce temps où on est présent à l'école, qui touche toutes les familles, toute l'administration de l'éducation nationale et toutes les administrations municipales. Donc vous voyez, c'est un problème gigantesque. Il y a un problème de douleur, il y a un problème de management, il y a un problème d'organisation, il y a un problème médical, il y a un problème de formation. Tout ça, c'est sur le tapis avec ce qui vient d'être arrivé. Alors, je crois qu'il faut bien sûr qu'on discute de la question immédiate. Et on ne peut être que dans l'empathie et dans l'incompréhension. Comment est-il possible que des hommes, et je suis désolée, mais c'est essentiellement des hommes d'après les chiffres.
On y viendra sur ce point d'ailleurs. Voilà, oui.
Que des hommes se permettent d'agresser des petites filles et des petits garçons. Comment est-ce que c'est possible et de leur faire si mal, puisque certains enfants sont plus qu'affecté, c'est pas une caresse, etc. Non,
c'est un vrai traumatisme.
C'est un vrai traumatisme auquel parfois les médecins ne savent pas comment répondre. Donc, bien sûr, on a cette question-là. Mais derrière, je crois que si on veut être des acteurs réfléchissants, il faut aller plus loin. Voilà. Ça, c'est ma première réaction.
Et il faudra peut-être une réflexion nationale sur ce sujet.
Absolument.
Enfin, c'est pas peut-être.
C'est une réflexion nationale à avoir.
Annie Thomas.
Alors, je partage bien évidemment tout ce que Marc-Christine vient de dire, et en particulier la douleur des parents et la douleur des enfants, le traumatisme pour l'institution aussi, parce que ça rejaillit aussi sur les phases d'apprentissage. Hein. Soyons clairs qu'on est dans l'incapacité ensuite de pouvoir progresser au rythme de l'éducation telle qu'elle est prévue dans l'éducation nationale. Au-delà de ça, il me semble que nous vivons un moment un peu particulier où on a une certaine forme de prise de conscience sur toutes ces questions. Ce scandale vient se rajouter à d'autres, hein. Ça a été évoqué par vous-même concernant ce qui se passait dans l'église, dans certains pensionnats religieux, dans d'autres secteurs particuliers sportifs. Hein.
Les associations les fédérations, sportives, les clubs sportifs,
y compris
les
fédérations.
Il y a beaucoup de choses aussi à dire.
Absolument. Donc, cette question des violences sexuelles qui sont faites aux enfants est une question qui est devant nous, dans notre société. Il faut que nous la traitions avec respect et avec dignité. Mais en même temps, je tiens à souligner que ça signifie qu'un tournant a été pris et que la parole des enfants commence à être écoutée. La société est prête à une partie de la société, hein, soyons clairs, est prête à faire part de ce débat, les élus politiques aussi. Donc j'y vois quand même une petite lueur d'espérance par rapport à la résolution qui est évidemment extrêmement compliquée. Ce scandale a rythmé la dernière élection municipale de Paris. Hein,
voilà. La fin, en tout cas, de la campagne.
Et la fin. Et je dois dire que je n'ai guère aimé l'exploitation à outrance de cette thématique qui a été faite contre le candidat qui, est, en fait, a été élu maire.
Ouais, je rappelle qu'Emmanuel Grégoire est dans l'équipe municipale d'Anne Hidalgo depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui déboule comme ça.
Oui, mais rappelez-vous qu'il a été élu.
Dans ses fonctions, dans ses responsabilités.
Oui, mais il n'avait pas cette responsabilité-là. Il a quitté aussi l'équipe pour être élu député. Hein. Il est parti de l'équipe. Il n'était pas là au moment où, en fait, où en 2025...
Je pense qu'il était au courant, de toute façon, du sujet, forcément.
Mais, oui, mais je trouve qu'il était au courant. Ce n'est pas parce que lui était courant, les autres aussi étaient au courant. Rachida Dati, permettez-moi de le dire, est maire d'un arrondissement de Paris depuis plusieurs années. Elle a aussi sa forme de responsabilité. Je n'ose dire qu'il conviendrait d'aller contrôler ce qui se passait dans les écoles du 7e arrondissement, mais je pense que ça serait un coup bas et je ne l'aurais pas utilisé moi-même dans la campagne, et dont je n'ai pas aimé qu'on utilise cela, surtout pour quelqu'un qui elle-même est en responsabilité et faisait partie de l'équipe directoriale, on peut dire, de toute la capitale. Moi, je vois, par rapport à ces scandales, un certain nombre de points qui sont mis en avant et sur lesquels il faut travailler maintenant très concrètement. Le premier, c'est qu'il y a eu une gestion très erratique des services de cette question. Voilà, elle n'a pas été bien prise en charge. On a laissé se dérouler des histoires sans en faire une analyse systémique. Il y a eu un turnover trop important du personnel, et bon, j'y reviendrai en tant que syndicaliste. Et il y a eu aussi une très mauvaise circulation sur les suspensions. C'est-à-dire, si vous suspendez quelqu'un parce qu'il est coupable, mais que vous ne le faites pas savoir autour de vous, cette personne peut aller ailleurs, y compris dans la commune voisine, il suffit de franchir le périphérique. Donc tout ça fait que, évidemment, ça crée un système de problèmes généraux.
Alors, effectivement, ce qui a été dit aussi, on a parlé d'une forme d'homme Omerta sur cette affaire. Je ne sais pas, je vais vous poser la question à toutes les deux. Hein. Est-ce que vous pensez que ça a été le cas?
L'omerta, elle naît, Eric, chaque fois qu'il y a un problème de violence sexuelle, que ce soit sur
c'est
les
vrai.
Femmes, sur les enfants, un problème d'inceste aussi, nous savons très bien
que
ce système-là, il faut
partout,
le casser, il est en train d'être cassé, je dirais que, et pour moi, il n'est pas particulier à cette affaire-là. Mais si vous voulez bien, je voulais revenir
sûr,
avec mon regard de syndicaliste sur en particulier cette question du turnover, c'est-à-dire de l'organisation du service, bien évidemment, et sur ce que ça produit. C'est-à-dire que la mairie de Paris, vous l'avez dit, il y a 15 000 animateurs. Dans ces 15 000 animateurs, il y a 10 000 vacataires, dont les personnes, je dirais, titulaires sont en minorité.
C'est un tiers seulement.
Et voilà. Et il y a un tel turnover que 3 000 personnes doivent être embauchées tous les ans. Donc c'est énorme en termes de gestion. Nous savons aussi que ces emplois sont des emplois peu payés. Qu'ils viennent d'être peu payés aussi parce que parfois ce n'est que quelques heures par semaine,
voilà,
quelques heures par jour.
Peu payés.
Comment
parce que c'est du temps partiel,
voilà,
c'est souvent
on
du
a
temps.
L'heure n'est pas chère.
Et l'heure n'est pas chère. Donc, qui voulez-vous avoir de face à vous? Vous ne pouvez pas avoir du personnel compétent qui a été formé, y compris même avoir le brevet d'animateur. Certaines ne l'avaient même pas.
Plus, derrière,
le BAFA,
de formation, évidemment.
Ou des personnes qui sont compétentes justement sur la gestion des enfants, sur la gestion des violences, quelles qu'elles soient, hein, sur l'acte d'apprendre, enfin, toute une série de choses qui sont indispensables. Donc, lorsqu'on continue avec un système de ce type, je dirais qu'on ne doit pas être étonné d'avoir du personnel qui pose problème. Il y a d'autres solutions. Alors, je ne suis pas ici pour faire le briller Blagnac, mais se référer à ce que Blagnac a fait. La ville de Blagnac, évidemment, qui compte un nombre d'animateurs dans les ALAE bien moindre, soyons clairs, mais a fait le choix, il y a 2 ans, de les titulariser en créant, avec les petites sœurs écrenées partout, de vrais contrats de travail qui étaient soit à temps complet, soit à mi-temps en fonction du désir des personnes. On le sait qu'il y a parfois certaines mamans qui préfèrent travailler à mi-temps. Point final. Pas de problème. Mais ce sont des contrats qui sont des contrats à durée indéterminée, donc évidemment sécurisés, sécurisants pour la personne. Et ces personnes-là entrent désormais dans le cursus de formation des autres personnels de la mairie. Donc ce qu'on peut faire à Blagnac n'est pas duplicable, bien évidemment, peut-être à Toulouse, mais peut-être à Paris. Mais sur le lot, permettez-moi de dire que quand on utilise 15 000 animateurs, avec ça, on peut créer des journées de travail, on peut créer créer des demi-semaines de travail qui seraient quand même très, très, très intéressantes. Donc, avoir ce choix me semblerait être une question importante. La deuxième question, et là c'est peut-être une question qui est en relation avec ce que Marie-Christine a introduit, et je ne développerai pas beaucoup plus, mais quelle est la place et quelle est la fonction, quelle est la mission du périscolaire aujourd'hui ? On sait que ça a évolué de la garderie, que nous connaissions parfois, des ateliers d'éveil, des lieux où les parents laissent leurs enfants parce qu'ils travaillent. Et je suis satisfaite, je le dis ici à ce micro, que les deux parents travaillent. Donc, on a un flou absolu, à la fois sur le statut du personnel, et on a un flou absolu aussi sur les missions du périscolaire. Donc, si on veut replacer l'enfant au centre, à la fois par rapport à sa journée de travail, d'apprentissage éducatif du périscolaire, comment tout ça se combine, comment tout ça travaille. Alors, la décision qui a été prise par le nouveau maire, de convoquer une convention citoyenne sur les temps scolaires, les temps de l'enfant, me semble être très positif.
Une réaction peut-être à ce qu'a dit Marie-Christine Monnoyer.
Ce qui vient d'être dit est tout à fait important et extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas vraiment pris en compte, c'est que depuis l'époque de la garderie, il y a 25 ans, à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, la grande majorité des femmes qui ont des enfants travaillent. Et donc, dans ces conditions, et la grande majorité des couples qui ont des enfants travaillent tous les deux. Et donc, dans ces conditions, la discordance qu'il y a entre le rythme de l'école et le rythme du travail salarié, elle est patente et elle est complexe à gérer. Ce qui est très intéressant, ce qui est très étonnant, c'est qu'au fond, on a changé plusieurs fois l'organisation du temps scolaire sans véritablement se poser la question des conséquences que cela avait sur les parents. Puisque je suis enseignante, je peux dire, je crois, que j'ai souvent été troublée par le fait que on s'intéressait aussi peu aux incidences des choix qui étaient faits sur le temps scolaire et donc du travail des enseignants, du temps de travail des enseignants, avec les conséquences que cela avait sur les familles. Je vais prendre un exemple qui est un petit peu distant par rapport au problème qui nous intéresse. Dans la fameuse convention nationale sur le temps scolaire, il est suggéré que dans les lycées en particulier, mais aussi les collèges, les cours ne commencent qu'à 9h du matin. Cela peut paraître surprenant, sauf que aujourd'hui, dans la population française, la plupart des salariés, il y en a qui commencent plus tôt, mais il y a une très grande majorité de salariés qui commencent à 9h du matin.
Oui, 9h.
Ce qui veut dire que les gamins, osons dire ce terme, commencent à travailler avant leurs parents, sauf ceux qui ont des professeurs qui commencent leur cours à 8h du matin. Surtout qu'il faut être là à 8h00. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il faut être là à moins 10. Sinon, un métro manqué ou un bus manqué, vous êtes en retard. Donc, à 8h00, il faut être en cours. Vous vous rendez compte de l'heure auquel on se lève. Pour être à 8h00 dans la salle de cours, il y a beaucoup d'enfants qui sont levés entre 6h et 6h30. Hein? Alors que leurs parents, eux, vont se lever à 7h30. Enfin, ils vont se lever plus tôt parce qu'ils veulent que leurs enfants...
Ils sont obligés.
Mais voilà. Mais naturellement, ils se lèveraient à 7h30. Oui. Et les enfants, eux, il faut qu'ils se lèvent à 6h30 et qu'on commence à 8h00. Eh bien, moi, ça me trouble. Et qu'on sait aujourd'hui, en 2026, je le vois bien parmi tous mes petits-enfants, le nombre de ceux qui se lèvent beaucoup plus tôt que moi. Ce qui est quand même un peu surprenant. Et ça, c'est parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup aux conséquences du temps scolaire sur les enfants. Et tout ça, ça mérite vraiment d'être mis à plat. Alors, il faut qu'on pense tout ce qui a été dit sur le fait que les jeunes, parce que généralement ce sont des jeunes, les jeunes gens qui sont embauchés dans le cadre du périscolaire sont des jeunes gens qui vont avoir un tout petit salaire, qui ne vont donc pas être autonomes, qui vont n'avoir pas vraiment droit à la formation parce qu'ils sont embauchés pour une période courte et qui, de ce fait, vont être soumis à un monde dans lequel de multiples pulsions sont possibles. Eh bien ça, c'est pas possible. C'est pas possible et il faut que tout le monde le dise, tout le monde réfléchisse, que l'on soit prof, que l'on soit directeur d'école, que l'on soit responsable d'une association sportive ou que l'on soit parent, des fois ça peut être les deux, évidemment, il faut se poser ces questions-là et ne pas les mettre sous le tapis parce que toute la planète ne fonctionne pas comme nous et que ça peut de temps en temps nous donner des idées. Je ne dis pas des exemples, je dis des idées.
La proposition du maire de Paris qu'a évoqué Annie Thomas là, d'organiser une convention citoyenne sur le périscolaire et les temps de l'enfant, vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose qui irait dans le sens de ce que vous préconisez?
Mais moi j'en suis persuadée qu'il peut sortir quelque chose. D'abord parce que ces conventions...
C'est ce qu'il en sort est pris en compte, évidemment.
Ces conventions, elles sont intéressantes parce qu'elles conduisent ceux qui y participent à regarder les choses... parfois de façon différente, entre le moment où ils sont rentrés, où ils ont été intégrés dans cette commission, et le moment où il en sort. On en a vu suffisamment pour savoir que cela ouvre les yeux. Et en fait, on fait de l'intelligence collective dans ces conventions.
C'est le but.
C'est le but. Alors, bien entendu, il faut les mettre en application. Mais je crois qu'il faut évidemment que l'Éducation nationale se sente interpellée. Parce que l'on connaît maintenant, il faut que les lieux d'enseignement en catho se sentent interpellés par ce que l'on apprend maintenant.
Ça sort depuis quelque temps. Là, l'éducation nationale, c'est un peu plus compliqué.
C'est plus compliqué parce qu'ils sont d'abord beaux, que c'est un mammouth.
Oui, ils n'aiment pas trop qu'on aille fouiller un peu dans leurs affaires, qu'on leur fasse des réflexions.
Absolument. Bon, mais
là, typiquement, quand même, il y a des signalements qui ont été faits il y a plus d'un an.
Oui.
Il ne s'est pas passé grand-chose.
Pour
parler d'Omerta, c'est sans doute trop fort. Mais le fait est qu'il ne s'était pas passé grand-chose pendant un an. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Annie Thomas.
Il ne s'est pas passé grand-chose, mais surtout, le temps à chaque fois est très long.
Oui, alors en plus, il y avait cette campagne municipale qui arrivait, ce qui n'a sans doute pas arrangé les choses.
Au-delà de ça...
Mais justement, on aurait dû s'emparer du sujet.
Notre pays est un pays qui est fait, on le sait, d'empilement d'institutions et de structures. C'est-à-dire que pour nos auditeurs qui, pour certains, n'ont pas d'enfants ou n'ont pas réfléchi à cette question, le temps périscolaire est géré par les municipalités. Il n'est pas géré par l'éducation nationale.
Ça se passe dans les murs
L'enfant est le même, mais l'enfant, lui, lorsqu'il passe de sa salle de classe où il est géré, assuré, si jamais il y avait un problème, par l'éducation nationale, et lorsqu'il passe à la cour de récréation au moment du temps périscolaire ou dans l'atelier qui est toujours dans la même école, et juste après la fin de ses cours, à ce moment-là, il passe sous la gestion de la municipalité
et d'agents de la municipalité.
Tel que notre pays est fait, parce qu'en plus on adore ce type de frontières, chacun dans son silo.
Et comme ça on n'agit pas, c'est toujours la faute de l'autre.
On gère le temps périscolaire, on gère la cantine, parce que rappelez-vous aussi les municipalités gèrent la cantine, et le personnel qui est afférent. Mais ce personnel, non, véritablement, il n'y a rien qui l'obligerait à avoir un lien avec le personnel de l'éducation nationale, c'est-à-dire
ce qui est aberrant.
Les institutrices, les directeurs, et ce qui est aberrant.
Cette fameuse expression aujourd'hui, chacun dans son couloir de linge.
Mais oui,
mais
on sait que ce n'est pas toujours, que ce n'est pas le cas. On sait qu'on a des municipalités intelligentes qui savent qu'ils ne gèrent pas que des locaux, parce qu'ils gèrent aussi les locaux, c'est eux qui gèrent les locaux, et le temps périscolaire, qui savent aussi qu'il faut travailler en lien avec le directeur, l'inspecteur d'académie. Mais il me semble que le premier travail à faire, effectivement, c'est de poser ça sur la table en termes de coordination entre les deux types de services et les deux types d'institutions. Ça, c'est vraiment le béaba, me semble-t-il, de ce que nous voulons faire. Et ensuite, il faut que les municipalités, elles aient la capacité, la possibilité de gérer ce type de personnel avec autant de soin qu'elle gère avec les autres personnels qui sont là dans les municipalités. Donc, on a, si vous voulez, c'est le statut même de la garderie qui faisait avec des moniteurs de colo vachement sympas qui font jouer les enfants dans la cour ou bien qui surveillent les devoirs. On n'a pas besoin d'être très formé pour faire ça. C'est faux. Voilà, il faut passer de cette image d'Épinal et vraiment très rétrograde à un fait que le périscolaire, c'est un lieu aussi d'épanouissement, ça doit être un lieu d'apprentissage, et c'est aussi un lieu où on doit respecter cet enfant. Donc effectivement, ce temps, cette articulation des temps me semble importante. Mais rappelez-vous que le président de la République en faisait aussi une question importante, hein. Il l'avait soulevé, le temps des enfants, l'articulation, voilà. Alors, on n'a pas eu de réflexion de ce type-là depuis que la France a choisi la semaine de travail à la semaine à 4 jours et demi. Voilà. Vous vous souvenez?
Alors qu'en fait, ça a un impact considérable. Parce que la semaine à 4 jours et demi, elle s'est traduite par le fait que le périscolaire commençait à 3 heures de l'après-midi le mardi et le jeudi.
Mais oui.
Puisque pour faire 4 jours et demi, comme on a gardé le même nombre d'heures de cours, eh bien, le mardi, pour tous ceux qui sont à 4 jours et demi, ce qui est le cas à Paris, eh bien, à partir de 3 heures de l'après-midi, on n'est plus à l'école, enfin, on est encore à l'école, mais on n'est plus ministère de l'Éducation nationale, on est périscolaire, c'est-à-dire mairie.
Non, cette réforme de 4 et demi a augmenté le temps périscolaire et donc a dû augmenter des besoins d'animateurs sans qu'il y ait une réflexion réelle sur l'encadrement de ce temps scolaire.
Donc, c'est véritablement,
je pense, dont la décision du maire de Paris est bonne. Simplement, va-t-il pouvoir, lui, à son niveau, imposer au niveau de la capitale une organisation? C'est une question. À mon sens, ce qui se passe à Paris doit aussi se passer dans d'autres endroits, soyons clairs. Nous sommes ici dans...
Ça paraît peu probable que n'existe qu'à Paris.
Effectivement, ça doit être au-delà de Paris, ça doit être une réflexion nationale, me semble-t-il, au minimum.
Alors c'est d'autant plus étonnant que lorsqu'on a décidé de passer à 4 jours et demi la journée scolaire, et je suis remontée un petit peu dans les documents et dans les prises de parole, Les différents ministres de l'Éducation nationale disaient « Eh bien, comme ça, ça permettra de faire les devoirs à la maison. Se feront à l'école. »
À l'école.
Et ce qui est à la maison... Alors, on a même employé un terme que j'ai trouvé joli. Les devoirs se font à l'école et à la maison, c'est les revoirs.
Oh. Voilà. C'est joli, oui.
Et les devoirs à l'école se font pendant le périscolaire. Ou... Enfin, si, forcément pendant le périscolaire, pas complètement pendant... Et donc, pour autant, on a des gens qui n'ont pas leur BAFA, qui ont peut-être une formation très légère et qui vont avoir de multiples responsabilités. Quelque part, l'éducation nationale, c'est laver les mains en signe de naissance. Hein. On change le rythme, on dit qu'il faut faire les devoirs à l'école, mais comment? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée.
Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel Grégoire, il a proposé un plan de 20 millions d'euros hein, qui prévoit, entre autres, hein, et sans doute essentiellement, d'engager 2800 agents supplémentaires sur des temps continus, pas sur des temps partiels, continus, et avec l'objectif que soit respectée la règle absolue qu'aucun enfant ne soit laissé avec un adulte qui lui est seul, ni aucun adulte seul avec plusieurs enfants. Bon, voilà. Et donc, il y a l'organisation de ces fameuses conventions citoyennes sur le périscolaire et les temps de l'enfant qui devraient donc être lancées sous peu. Mais encore une fois, il y aura forcément des conclusions qui en sont tirées, des propositions. Après, seront-elles installées? Est-ce qu'il sera possible de les mettre en place? Est-ce qu'il faudra encore des moyens supplémentaires que n'a peut-être pas la ville financièrement
parlant? Il y aura une pression
parlant.
Des parents. Il y a une exigence des parents.
Oui,
je pense que c'est
ce qui est sorti maintenant.
Ah oui, c'est un dossier qui est porté vraiment par les parents.
Voilà.
Ah oui, ça a vraiment changé.
Et il est d'autant... Moi, j'ai envie d'ajouter un autre élément, et puisque nous sommes deux femmes autour de ces micros, c'est que ce sont les femmes qui sont montées au créneau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un drame comme celui des drames comme celui qu'on vient d'entendre à Paris,
famille, c'est un drame
la première
profond.
Question que se pose la mère, c'est est-ce que je vais diminuer mon temps de travail pour pouvoir être là 4h30? Et est-ce que je vais plus travailler le mercredi pour être là toute la journée? Alors, peut-être que certains pères se sont posé la question. En fait, immédiatement,
les femmes se disent « Ah oui, mais c'est de ma faute, je devrais être là plus souvent, j'ai été absente, etc. etc. » C'est-à-dire que ce point-là, hein, c'est encore, et encore une fois, sur les femmes, que ça tombe. Alors, ce sont des jeunes types qui agressent des petites filles et ce sont les mamans qui se sentent coupables.
Oui, oui, c'est une forme de culpabilisation.
Oui, alors effectivement, vous avez raison, ce sont essentiellement des hommes qui se sont rendus coupables.
Ça doit être un débat genré aussi.
De ces faits, à tel point qu'il y a des gens qui proposent qu'on n'engage plus que des femmes comme animateurs pour le périscolaire.
Ça existe dans certains pays. Ça existe dans certains pays. Et pas que des pays de religion musulmane.
Et il y en a même qui vont plus loin, qui veulent maintenant qu'on mette des caméras de surveillance partout dans les écoles pour voir ce qui s'y passe. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de toutes ces propositions, mais n'engager que des femmes, vous seriez pour, vous, plutôt ?
Non. Parce que, moi, je ne suis pas pour.
La parité, on n'y est plus là.
Non, mais vous voyez, on a la même réaction immédiate, toutes les deux.
Bien que nous nous sentions très féministes et très concernés, justement, par cette question.
Non, mais sans parler de ces aspects-là.
Mais je pense que la mixité, elle est indispensable. Et on est dans le domaine de l'éducation. Si ces enfants n'ont comme modèle devant eux que des institutrices, pardonnez-moi, quand on regarde le taux de féminisation de l'éducation nationale,
c'est 80%,
aujourd'hui, 80%. Donc déjà, en termes d'éducation. Et ensuite, si c'est exactement la même chose pour le périscolaire, je dirais quelque part, il leur manque quelque chose. Voilà. Et on va laisser aussi les hommes tout seuls, je dirais. Il faut que les hommes aussi se mobilisent par rapport aux petits-enfants, qu'ils soient aussi des acteurs véritablement de leur éducation, dont je ne suis vraiment pas favorable. Par contre, je suis favorable à la sécurisation de ces emplois, qu'on les paye mieux et qu'ils soient intégrés dans un cursus de compétences et de formation et de contrôle.
Enfin, véritablement, c'est abordé dans le plan d'Emmanuel Grégoire, mais ça me semble fondamental. Hein.
C'est fondamental. C'est certain que ça va coûter un peu plus cher pour les finances, hein, si on parle de finances, hein, de la municipalité.
Ils ne sont déjà pas brillants
à Paris.
Ce serait de l'argent qui...
Oui, mais ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre.
Bien sûr.
D'une part, vous n'avez pas à opérer tous les ans 3000 embauches. Vous savez ce que mobilise,
Il faut les reformer
embauches.
À chaque fois. Oui.
Ça aussi, ça permet aux gens d'être dans la stabilité. Donc d'être moins malade, d'être moins absent, d'être moins... Tout ce que vous pouvez imaginer. Et au final, pour les enfants, c'est du bénéf aussi. Donc ce que vous perdez certainement un peu sur une ligne, vous le regagnez sur deux ou trois lignes budgétaires ou humaines, on peut dire. Hein, voilà.
Alors pour terminer, parce que le sujet a d'ailleurs été un petit peu abordé, est-ce que cette affaire ne met pas en évidence plus largement que notre pays n'a pas pris encore la mesure des violences et agressions sexuelles que subissent de nombreux enfants et adolescents dans le milieu scolaire, mais aussi dans les associations sportives, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas un phénomène que jusqu'alors on a un peu refusé d'affronter, on n'a pas voulu le voir en face, le traiter en profondeur, comme ça a pu être le cas au sein de l'Église? Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Marie-Christine Monnoyer.
Alors, je pense effectivement que c'est un problème de long terme que l'on a gentiment caché. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'Église a commencé à le regarder, mais vous avez vu aussi qu'il y a une diminution des efforts qui sont mis sur ce sujet-là au sein de l'Église. Donc, c'est un sujet tellement difficile et qui se traduit aussi rapidement par tellement coûteux quand il faut envisager des compensations financières qu'on a tendance à le mettre sous le tapis. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le prendre à bras-le-corps et ça veut dire qu'il faut aussi le penser dans l'éducation en tant que telle. Pour avoir beaucoup des enfants de ma famille qui ont suivi l'enseignement du BAFA, eh bien, j'ai été impressionnée par les effets positifs du BAFA sur les jeunes de mon environnement. Je regrette juste que dans certains cas, le BAFA soit cher. Et je le dis parce que c'est aussi un souci. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, en particulier pour les garçons. Parce que les jeunes gens qui se lance dans le BAFA, le brevet d'aptitude, etc., à la fonction d'animateur, eh bien, généralement, il découvre les enfants. Il découvre que, comme m'a dit un jour un de mes petits-fils, « Mais c'est une vraie galère que de s'occuper des gamins, ça bouge tout le temps !» Ça m'a fait sourire ce jour-là, mais en fait, c'est vrai. Et pour beaucoup de jeunes garçons, qui ne se sont pas tellement occupés forcément de leurs petits frères ou qui n'en ont pas eu, eh bien, c'est la découverte de l'enfance et de la préadolescence. C'est très intéressant de se dire ça, parce que peut-être que cette découverte-là les rendra beaucoup plus attentifs au respect que l'on doit avoir vis-à-vis de l'enfant et de l'adolescent. Donc, travaillons sur le BAFA, incitons jeunes gens et jeunes filles, mais en particulier les garçons, à suivre ça, pour que ça facilite un petit peu la résolution de ce problème.
Annie Thomas, je laisse le dernier mot sur ce sujet.
Sur ce sujet, alors c'est évidemment c'est très intéressant et très important ce que vous êtes en train de dire, Marie-Christine. Je rajouterai que parfois on peut constater quand même une certaine évolution de la société positivement dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au bout des efforts. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a des écoles masculinistes, enfin, des tendances masculinistes dans notre société, société américaine. Mais quand même, si on regarde, si on jette un regard un petit peu derrière nous depuis 5 ans, avec le mouvement MeToo, donc, parce que je fais un parallèle toujours entre les violences qui sont faites aux femmes et les violences qui sont faites aux enfants.
Hein. Les il y a quelque part,
voilà, il y a une pulsion qui est là. Donc, depuis 5 ans, tous les dossiers qui ont été traités, qui ont été présentés désormais sur l'inceste, y compris avec des témoignages précis de personnes qui ont été confrontées, qui ont osé écrire, et en écrivant, qui ont rencontré un public qui s'est reconnu. Je dirais qu'il y a une lame de fond dans la société française, peut-être la société occidentale, hein, si on veut élargir, qui fait que sur cette question-là, oui, je crois que nous sommes en train de franchir un cap. Il faut faire attention parce qu'en face, ça suscite des défenses, des réactions, je le disais, masculinisme. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ces deux tendances. Mais j'ai l'impression que celle que nous sommes en train de vivre avec cette affaire qu'on décrit est quand même très, très forte.
Oui, alors l'affaire est toujours en cours et il est malheureusement probable qu'elle donnera lieu à d'autres révélations. Emmanuel Grégoire a promis la transparence, le dialogue avec les parents et donc la mise en place d'actions pour améliorer la situation. Espérons que ce sera le cas. C'est le moment de la pause dans cette émission. 20 secondes de respiration et on se retrouve tous les trois pour débattre d'un autre sujet d'actualité. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin, l'Institut catholique de Toulouse, et Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. L'Iran a donc proposé un plan pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient, plan accepté par Donald Trump à titre provisoire, en attendant les négociations sur les 10 points qu'il contient. Je rappelle que la France s'était opposée auparavant aux frappes annoncées par le président américain contre les infrastructures civiles et énergétiques iraniennes si le pouvoir iranien ne répondait pas à son ultimatum. Quelques jours après la prise de position française, vous avez tous appris que les otages Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés par l'Iran à l'issue de 1277 jours de captivité. On ne sait pas vraiment quelle a été la teneur des négociations ayant permis d'aboutir à cette libération. Pour autant, quelle réaction vous inspire cette séquence diplomatique entre la France, l'Iran et les États-Unis et sans doute d'autres pays tiers, de même que les positions prises ces derniers jours par notre pays dans le conflit au Moyen-Orient ? Annie Thomas, je sais que vous suivez ça de près.
Oui, je suis. Mais vraiment, c'est une question qui m'intéresse. Je dirais, pour répondre tout de suite à la question précise, la position de la France n'est pas une position d'opportunité qui est liée à la libération de deux otages. Je suis satisfaite, bien sûr, pour eux de cette situation. Non, tout simplement parce que la France a toujours déclaré et est attaché au droit international et en particulier ce qu'on appelle le droit de la guerre. Hein. Le président Macron comme le ministre des Affaires étrangères l'ont dit dès le début du conflit, de même qu'il l'avait dit, qu'il continue à le dire pour d'autres conflits comme par exemple l'Ukraine, on pense à l'Ukraine. Et au-delà de cela, la France a affirmé aussi son opposition à la stratégie des États-Unis et d'Israël. Hein. Soyons clairs, il n'y a pas que sur cette question que la France France s'est opposé aux belligérants, on peut dire, en la matière. Donc, les frappes contre les infrastructures civiles et énergétiques, hein, telles que le président Trump menaçait l'Iran de les effectuer, sont exclues, en fait, par ce qu'on appelle le droit de la guerre, hein, qui est composé de plusieurs conventions que nous avons ratifiées, que nous avons signées et ratifiées, et aussi de droits coutumiers. Hein. Marie-Christine, certainement, en parlera beaucoup mieux que moi en la matière. Moi, je suis historienne, hein, vous avez présenté ma fonction actuelle, et donc je me suis, moi, surtout intéressée, parce que je ne crois pas qu'on va avoir de gros conflits entre nous, entre les deux intervenants, je me suis plutôt intéressée, moi, pour vos auditeurs, aux origines historiques, hein, de ce droit qu'on qualifie de droit international humanitaire, hein, parce que c'est comme cela qu'on le définit. Il faut, situer son origine de manière ancienne, hein, le milieu du 19e siècle, je vais y revenir à l'instant, et ce droit international humanitaire, c'est donc un ensemble de règles qui s'est construite peu à peu. C'est une construction progressive, hein, au fil de ces deux siècles, et qui va se construire encore, parce que sur certains points, nous n'avons pas encore fait droit sur ces questions-là. Et cet ensemble de règles tend à limiter les opérations de guerre, en particulier à l'égard des populations, à l'égard des infrastructures, et a aussi des modalités de protection sur deux catégories de personnes qui sont les prisonniers de guerre, et les réfugiés. Hein, on entend parfois à la télévision, les réfugiés de Gaza sont protégés par la Convention des Nations Unies, ou un prisonnier de guerre dépend de la Convention de Genève pour sa protection. En tant qu'historienne, il y a 5 étapes qui peuvent être citées depuis le milieu du 19e siècle. La première, bien sûr, c'est de rendre hommage au Suisse Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge, en 1859, se trouve sur le champ de bataille de la bataille de Solferino en Lombardie, qui oppose les armées de Napoléon III à l'empereur François-Joseph.
C'est 1859.
1859, 1900, j'ai dit 1900, pardonnez-moi. 1859, absolument. Donc, il est effrayé de ce qu'il voit et il décide de ne pas faire de choix dans les blessés qui sont là, de les rapatrier tous et de les ramener vers le village. À partir de ce moment-là, il écrit, il réfléchit, il mobilise et il met en place en 1863 un comité qui s'appelle Comité international de secours aux blessés, qui deviendra ensuite le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà l'origine. Et en 1864, vous voyez, j'y tiens, 1864, une première convention dite de Genève est signée sous son impulsion et qui signe en fait la naissance de ce droit international humanitaire. La deuxième étape, c'est une conférence de la paix qui a lieu à La Haye. On parle souvent des accords de La Haye, hein. C'est quelque chose qui est sûrement familier à nos auditeurs.
L'expression, oui.
Voilà, et la Cour pénale internationale en particulier. Mais dès cette époque-là, c'est-à-dire avant même la Première Guerre mondiale, c'était une conférence qui essayait d'organiser justement ce qu'était la paix. La troisième étape, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale, le choc absolu d'armées qui restent là pendant 5 ans face à face. Et à ce moment-là, il y a un point très important qui ressort et qui intéresse justement les humanitaires et les spécialistes de ce droit, c'est les prisonniers de guerre, parce qu'on fait beaucoup de prisonniers de guerre à ce moment-là, qu'ils soient allemands ou des alliés, bien évidemment,
oui.
De tout part. Quatrième étape, c'est les suites de la Deuxième Guerre mondiale et son bilan effroyable, là aussi, qui est dans les morts dans les camps, mais aussi à la fin de la guerre, des modalités que les uns et les autres avaient exclues plus ou moins respectueusement, qui était de bombarder des populations civiles ou des villes. Mais à la fin de la guerre, on le sait, les alliés bombardent la ville de Dresde et certaines villes allemandes. Et les Américains, Berlin, et les Américains bombardent, envoient les bombes atomiques sur le Japon sans distinction de cibles militaires. Voilà, donc ça, c'est évidemment un traumatisme absolu qui se traduit introduit en 1949 par les conventions de Genève qui traitent de différentes matières. Et il y a une cinquième étape qui est un protocole additionnel à ces conventions de Genève en 1977. Vous voyez, c'est beaucoup plus près de chez nous, pour limiter aussi les opérations militaires et protéger les civils. Donc, on voit que tout au long de presque deux siècles, il y a eu toute une série de processus qui ont défini un droit. Alors, le problème de ce droit, c'est qu'il y a une majorité de pays qui ont signé
la convention,
les conventions en particulier, et cette majorité fait qu'elle s'applique universellement. Hein, voilà le principe de droit. Mais certains n'ont pas ratifié certains protocoles, d'autres, malgré la ratification, ne le respectent pas, soyons clairs, et dont on manque d'une police internationale. Ce ne sont pas les quelques casques bleus.
Voilà.
Mais par exemple.
Quelque chose qui ressemble à une police.
Voilà. Mais les États-Unis, par exemple, qui ont ratifié Genève et ont ratifié la Haye, mais n'ont pas ratifié la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le mode de contrôle et de sanction de ceux qui vont au-delà de tout ça. Donc, c'est un droit qui existe, il est en construction permanente, il a comme particularité d'avoir beaucoup travaillé avec la société civile, c'est-à-dire des organisations, des ONG qui ont beaucoup travaillé sur cette question, mais c'est un droit qui est, soumis à un tribunal international qui parfois n'a pas toujours les moyens de ces actions. Mais il existe, et je pense que Jean-Noël Barrot l'a redit encore ce matin en disant « nous sommes pour le respect ». Ce droit n'existera que si les pays le respectent.
Vaste sujet. Marie-Christine Monnoyer.
Alors, je ne vais pas prendre le sujet de la même façon, mais je suis très très heureuse qu'on ait repris tous ces éléments-là, parce que, just for fun, Lorsque le président Trump a entendu les responsables iraniens dire « on va mettre des civils sur les lieux qui doivent être bombardés puisqu'il était annoncé qu'on allait bombarder les ponts et le reste », eh bien, le président Trump a dit « mais c'est pas légal ». Et ça m'a vraiment fait presque rire, parce que ça, c'était pas légal de mettre des boucliers humains, mais c'était légal d'aller bombarder. Voilà. Alors, ce qui est...
Ça existait dans d'autres guerres, les boucliers humains, et des gens y allaient d'eux-mêmes. Hein.
Oui, oui.
Je me rappelle les bombardements en Serbie, par exemple.
Oui, oui, je me rappelle très bien. Donc, alors, ce qui est... Revenons, au fond, à la libération de nos deux otages. La question que vous avez posée aussi portait sur, au fond, est-ce qu'il y a eu des tractations et quel type de tractations il y a eu pour libérer Cécile et Jacques, comme le mettaient les grands panneaux.
Aujourd'hui, les gens n'ont plus que des prénoms.
Ils n'ont plus que des prénoms. C'était pour libérer Cécile et Jacques. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette question, au fond, c'était d'essayer de recenser tout ce qui avait été entrepris par le gouvernement français depuis que Cécile et Jacques avaient été arrêtés en mai 2022. Alors nous sommes en avril 2026 et donc leur cauchemar a duré presque 4 ans, puisqu'il y a quelques mois qu'ils sont à l'ambassade de France, mais enfin pratiquement pendant presque 4 ans, avec le fameux bombardement de la prison dans lequel ils étaient enfermés. Ce qui est impressionnant, c'est quand même de voir l'ensemble des efforts qui ont été menés et les différents outils que les pouvoirs publics français ont utilisés. Parce que on a commencé bien sûr par des observations, enfin des actions émanant du Quai d'Orsay.
Bah, diplomatique.
Voilà, tout ce qui est diplomatique.
Rupture des relations diplomatiques, l'arsenal habituel.
Voilà, ceci est extrêmement classique. Et puis on a essayé d'utiliser des médiateurs. Et on se rend compte d'ailleurs maintenant du rôle des médiateurs. Le sultanat d'Oman devient un médiateur extrêmement actif, et ce, sur des domaines très différents. Et c'est très intéressant parce que
Il se trouve que je suis allée me promener en tant que touriste à Oman. Et
vous promenez souvent, c'est bien. Vous
voilà.
Chance. C'est bien, comme ça vous vous confrontez à la réalité de ce pays.
Et donc, et justement, on est confronté à la réalité de ce pays. Et à combien il est intéressant de découvrir dans son pays, de ce pays, à tous les niveaux du quotidien, le rôle que jouent les responsables de ce pays pour faire que la diplomatie existe. Quand vous allez à Oman, vous êtes surpris par le nombre de gens qui parlent anglais. Hein. Mais il y a beaucoup plus de gens en valeur relative qui parlent anglais à Oman qu'à Tokyo, ce qui peut paraître un peu surprenant. Mais c'est comme ça. Et c'est peut-être pour cette raison qu'un pays comme Oman, qui évidemment est de culture profondément musulmane, est plus capable de discuter avec l'Iran que certains Américains qui ont, sur ce point, une culture un petit peu faiblarde. Hein. Et donc, pour revenir à Cécile et Jacques, on a eu, entre guillemets, utilisé les bons offices du sultanat d'Oman. Et puis, on est allé encore plus loin. On est allé à la Cour de justice. Hein. Et pour dire, mais ce qu'ils vivent est illégal, etc. Bon, c'est-à-dire que les étapes sont multiples, complexes, utilise toutes les phases du droit. Alors qu'à la fin, il y ait une concomitance entre la libération, le fait de pouvoir sortir de l'ambassade de France pour Cécile et Jacques, et le fait qu'une Iranienne qui était emprisonnée en France...
Oui, Madieh Esfandiari, voilà, ressortissante iranienne, condamnée à 4 ans de prison il y a 2 mois, hein, dont un ferme tout de même, pour apologie du terrorisme.
Elle n'a pas été incarcérée.
Elle n'a pas été incarcérée.
Elle n'a pas été
incarcérée. Elle n'a pas été incarcérée.
Il y avait 2 mois qu'elle avait été
condamnée. On a abandonné cette semaine son placement sous contrôle judiciaire. Donc, elle est sortie...
On a parlé d'échange, en fait. Voilà. Bon, mais, entre nos deux otages et cette ressortissante iranienne.
Mais comme vous le voyez, au fond, c'est le coup de pouce final. Parce qu'en fait, nos deux otages, ils étaient déjà à l'ambassade de France. Et ce, depuis le mois de novembre. Hein. Donc, on ne peut pas lier ce point-là avec le fait qu'ils étaient à l'ambassade de France. Hein. Donc, enfin, qu'ils ont été, eu la possibilité de sortir de l'ambassade de France. Donc, quand des Français... sont emprisonnés quelque part sur la planète, eh bien, on voit que l'ensemble de toutes les forces diplomatiques et judiciaires se mettent en route pour essayer de sortir ces personnes qui se sont parfois mises dans une situation un peu bancale. Mais ne traversez pas l'Iran en vélo, c'est pas le moment. Hein. Donc,
c'est pas le seul pays, je pense qu'il faut pas traverser.
Non,
vélo
c'est pas
moment.
Le seul pays. Hein. Mais voilà.
Mais en particulier celui-ci. Oui.
Voilà. Mais je pense que ne traversez pas Israël non plus en ce moment en vélo, c'est pas le moment.
Ni l'Ukraine, ni la Russie.
Voilà.
Ni
donc,
l'Ouest de la Russie, en tout cas.
Et peut-être c'est pas le moment d'y aller faire du tourisme. Hein. Mais en ce qui est très intéressant, c'est de voir que il y a en France un savoir-faire diplomatique. Et un savoir-faire judiciaire qui s'appuie sur tous les textes qui viennent d'être évoqués avant par Annie et qui ont fait que, normalement, nous essayons de faire en sorte que dans les pays en guerre ou en difficulté, ou que après des conflits, eh bien, on puisse récupérer le maximum de nos concitoyens qui auront été mis en prison. Ceci étant, on n'est peut-être pas obligé, dans n'importe quel pays, de contraindre ceux qu'on a mis en prison à des conditions de survie presque impossibles.
Hein. Oui, alors Pierre Cochard, l'ambassadeur de France en Iran, qui a reçu donc Cécile Kohler et Jacques Paris après leur libération, a dit que lui, ce qui avait joué, c'était une somme de facteurs. Il y avait plusieurs facteurs qui avaient joué et qu'aucun élément n'avait été décisif. Ça avait été des mois de travail qui ont pu aboutir à cette libération. Annie Thomas, vous vouliez
Je disais à la fin de mon intervention que, évidemment, nous ne devons pas être naïfs et nous savons que parfois, ce droit international humanitaire n'est pas respecté, même certains, je dirais,
je
qui sont...
Qu'il est souvent
voilà.
Pas respecté.
Disant cela, j'avais un exemple en tête qui m'est personnel, donc je vais en parler. parce que mon grand-père, qui était républicain espagnol, un de mes grands-pères, lieutenant dans l'armée républicaine, lorsqu'il a, il a passé la frontière, il était au camp, évidemment, à Saint-Cyprien, il s'est engagé immédiatement dans la Légion étrangère pour continuer à combattre le fascisme. Il y a eu beaucoup de républicains qui ont fait cela. Et donc, il a participé à la bataille de France et son régiment de la Légion a été fait prisonnier à la bataille de Toul en Lorraine. Et dont ils ont été déportés au Stalag. Et le régiment était considéré, bien évidemment, comme prisonnier de guerre reposant sur la Convention de Genève, sauf les républicains espagnols. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont arrivés au Stalag en Autriche, il y a eu une séparation qui a été faite entre ceux qui étaient protégés par la Convention de Genève pour les prisonniers et les républicains espagnols qui étaient considérés non comme des prisonniers de guerre par les nazis, ont été séparés. Et la conclusion a été que quelques mois après, mon grand-père a été déporté au camp de Mauthausen. Donc je rassure tout le monde, il est revenu, je l'ai connu, j'ai eu une très belle enfance grâce à lui. Mais voilà un petit peu comment, parfois, même dont l'Allemagne avait signé les conventions de Genève après la Première Guerre mondiale, il y a presque le couteau sous la gorge, mais je pense qu'ils avaient signé. Mais vous voyez, parfois, il n'y a pas de respect sur certains points. Et c'est aussi ce qui se passe parfois avec Israël et les États-Unis en ce moment. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas que nous ne devons pas rester fermes sur cette voie-là et retrouver certainement l'esprit de ces pionniers du Pacifique. D'entre-deux-guerres juste après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont construit la Société des Nations, les Nations Unies, pour continuer à faire que ce droit soit appliqué.
Alors, on n'aura sans doute pas le fin mot de l'histoire concernant la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, mais en tout cas, on va se réjouir évidemment qu'ils aient pu recouvrer leur liberté et retrouver leur famille et leurs proches. Il reste un petit peu de temps, 2 minutes à peine, pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Marie-Christine Monnoyer, vous avez la parole.
Oh, écoutez, pour l'instant, nous sommes toutes les minutes suspendues à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et quand nous sommes arrivés tout à l'heure, la première chose qu'Annie disait, est-ce que vous avez vu qu'il y avait quelque chose entre une discussion entre le Liban et Israël ? Bon, moi je ne l'avais pas vu 10 minutes plus tôt. Eh bien, s'il peut y avoir quelque chose qui se discute pour que le Liban ne soit plus sous les bombes, ça serait une très belle soirée.
Et on salue nos amis libanais à Toulouse, ils sont nombreux.
Je partage cela, c'était ce que je voulais évoquer bien évidemment, et je trouve particulièrement injuste et glacial que ce conflit qui a été démarré par le président Trump aboutisse par ricochet à faire que le Liban connaisse encore une période de guerre, de destruction et de traumatisme, alors même que le pays avait retrouvé une forme de stabilité. Certes, ce n'est pas parfait, mais une forme de stabilité et de fonctionnement démocratique. Donc, tous nos voeux accompagnent le Liban.
Oui, je pense qu'on sera nombreux à partager ces vœux. Alors, on arrive au terme de l'émission, même s'il nous reste un tout petit peu de temps, mais on va conclure là-dessus. C'est la fin de cette 225e mêlée de l'info. Merci beaucoup à toutes les deux d'y avoir participé. Comme souvent avec vous, c'était fort intéressant, toujours bien préparé, bien argumenté. Vous avez bien préparé votre affaire. Merci bien sûr à Coraline Camebra qui a réalisé une nouvelle fois cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés ce soir. Rendez-vous jeudi prochain pour d'autres débats, d'autres sujets. À bientôt. We'll be right back.